Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, 1000 km en voiture, soit un plein, c'est 200 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère, l'équivalent de 32 bouteilles de gaz. Oui, vous avez bien entendu. Un ratio peu connu, mais qui dit bien la folle histoire dans laquelle nous sommes embarqués. En cette année, Laudato si, pour nous aider tous et chacun à faire du chemin. Nous avons conçu cette série d'émissions pour nous approprier cette encyclique et changer ensemble de vie, rêver et construire le monde d'après. L'appel de Laudato si, sixième, on avance. C'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Fidèle au rendez-vous, Jérôme Gay, religieux jésuite, président du CERAS, Centre de Recherche et d'Action Sociale, et co-auteur de ce livre que l'on parcourt ensemble avec vous, chers auditeurs, Parcours spirituel pour une conversion écologique. Bonjour.
Bonjour.
Paru aux éditions d'ailleurs Vie chrétienne et fidélité. J'allais oublier Bénédicte Lamoureux, fidèle au poste aussi, religieuse Xavier, directrice du Centre spirituel jésuite Cotopaïs, c'est Centre jésuite dans le sud-ouest. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous par téléphone parce que vous êtes qu'à contact, c'est l'actualité. Et est avec nous aujourd'hui notre témoin du jour, Benoît Contant. Vous travaillez pour la Fondation d'Auteuil et vous êtes engagé dans l'aventure du village de François. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va le redécouvrir, en l'occurrence dans le sud-ouest, à l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert, à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
On peut dire que vous êtes engagé aussi avec votre femme et vos enfants. Comme à chaque fois, Jérôme Gay, on commence par un point d'actualité. Alors là, l'actualité, je me suis dit, on va prendre une actualité très terre-à-terre. C'est l'actualité d'Arthur et Blandine de l'Assus. On va les représenter rapidement. Ce sont donc deux brillants jeunes professionnels. Hein, lui a fait Centrale Paris. Elle travaillait à la Défense en ressources humaines. Et ils ont vécu une vraie conversion écologique. Ils ont écrit un livre, Et lentement tout bascule, paru aux éditions L'Escargot. Alors, ils tiennent une chronique dans un journal qui s'appelle Limite. Et alors, leur dernière chronique, ils parlaient de leur récolte de 4 tonnes de courge. Donc on peut avoir fait Centrale Paris et aujourd'hui récolter des courges.
Oui, tout à fait, c'est un chemin assez extraordinaire. Ils ont voulu ensemble, jeunes mariés, faire le chemin de Compostelle, et c'est là que tout a basculé. C'est-à-dire qu'ils ont, pendant ce chemin de Compostelle, ils ont lu Laudato si, et qui est un ouvrage absolument extraordinaire. C'était son encyclique du pape François. Je me lasse jamais de le relire, et il a produit cette conversion pour eux. C'est un chemin qu'ils amenaient alors ensuite à poser ces actes de transformation de leur vie.
Alors on peut lire hein, donc cette conversion, même si c'est pas forcément le sujet, mais d'une certaine manière c'est un petit peu l'actualité du jour, puisqu'aujourd'hui donc on va parcourir le chapitre 6, appelé à la conversion pour la sauvegarde de la création. Si vous deviez nous remettre en tête, maintenant qu'on a fait quelques pages, Jérôme Guy, un peu la logique qui prévaut à cet ouvrage que l'on parcourt et du coup à cette série d'émissions.
C'est une logique qui est basée sur les exercices spirituels de Saint Ignace, donc qui consiste d'abord à se mettre dans une relation avec Dieu, notre Créateur, nous positionner dans une juste relation vis-à-vis de lui et donc vis-à-vis de sa création. Donc c'est ce qu'on a fait pendant les trois premières émissions.
S'émerveiller de la nature, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures, le projet de Dieu sur l'homme au cœur de la création.
Voilà. Et puis
là, vous nous avez dit que vous embrassiez des arbres de temps en temps.
Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment retrouver cette relation avec les éléments de la nature comme étant nos frères et nos sœurs, à la suite de François d'Assise d'ailleurs, avec son Cantique des créatures. Et puis ensuite, l'étape suivante, ça a été de se reconnaître pécheur, donc le péché des hommes, cette société, cette humanité qui est en train de détruire la nature. Donc voilà.
Et chapitre 4, défiguration de la création par les hommes et reconnaître mon péché contre la création.
Voilà. Et puis ensuite, dans la reconnaissance du péché, quelle est ma part là-dedans? Donc faire la vérité, demander à Dieu de nous donner cette clarté du regard sur notre vie pour que nous puissions progresser et entrer dans une conversion.
Jérôme Gay, vous qui suivez ces actualités écologiques quand même d'assez près, hein, vous m'avez dit, je crois que vous étiez responsable un peu pour la Compagnie de Jésus, donc pour les jésuites, pour une partie de la France en tout cas, de la transition écologique, de cette question-là. Blandine et Arthur de l'Assus, vous en rencontrez beaucoup, en fait, il y a un mouvement de fond.
Oui, je pense. Bien sûr, ça reste en termes absolus ou en termes relatifs marginal, mais c'est très impressionnant. C'est-à-dire de rencontrer des jeunes qui sont bien établis dans la vie avec des super boulots et tout ça, et qui à un moment donné changent complètement et se lancent dans l'aventure avec un esprit d'entreprise et d'une prise de risque réelle pour eux, pour leur famille, mais qui ne se voient pas faire autre chose que ça. Voilà.
Alors on va y venir, on va parcourir donc avec vous ce sixième chapitre. Ce que vous commencez par faire, c'est que vous commencez par ces mots. De toute évidence, Jésus n'a pas milité pour l'écologie. Alors vous aussi un peu la branche sur laquelle vous êtes assise en l'occurrence, mais vous vous reprenez derrière en soulignant que c'est quelque chose à côté duquel on peut passer peut-être trop vite, hein, comme quand on regarde les paysages aujourd'hui, on considère que c'est d'abord un décor, qu'en fait Jésus baigne dans un monde agricole.
Oui, alors si vous voulez, je suis la branche, c'est-à-dire que ma manière de me rapporter aux Écritures et que de tout chrétien, c'est on va pas plaquer ce qu'on veut entendre sur les Écritures. C'est-à-dire, on écoute ce que le Christ, son message, sa vie, ce qu'elle nous dit pour aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, la première chose qu'on peut observer, effectivement, c'est une manière très humble du Christ de se rapporter aux éléments de la nature. C'est très beau quand on prend les évangiles et qu'on essaye de regarder tous les éléments de la nature qui sont cités et qui figurent dans les paroles du Christ. Il y a une sorte d'intimité, de relation très simple. Et quand il dit le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde, eh ben voilà, un élément de la nature dit quelque chose du royaume de Dieu. Alors c'est dans le cadre d'une parabole et tout ça, mais c'est très intéressant. Et ça dépasse le simple fait que Jésus appartient à une société rurale, donc c'est normal qu'il utilise tous ces termes et qu'il a cette proximité avec les éléments de la nature. Mais il y a cette posture, cette manière dont le Christ se rapporte à la nature qui est très belle.
Vous dites il y a quelque chose d'étrangement semblable au royaume des cieux.
Oui.
C'est-à-dire ?
Eh ben c'est cette humilité, cette simplicité dans l'accueil de la vie et de cette nature qui nous est donnée, et d'en faire quelque chose qui enchante le monde. Ce n'est pas la graine de moutarde n'est pas simplement le produit de mon activité que je vais pouvoir vendre sur le marché pour faire de l'argent. La graine de moutarde, elle me dit quelque chose du royaume de Dieu. C'est extraordinaire quand même.
Nous pouvons ainsi deviner que le plus sûr moyen de nous approcher du royaume est de nous tenir près des choses les plus simples, vous dites. Dites-vous dans cet ouvrage, à propos toujours d'abord de ce coup de focus sur Jésus et sur les Écritures, en introduction de ce chapitre, vous faites aussi un parallèle avec des déséquilibres qui n'étaient pas écologiques à l'époque de Jésus, mais qui étaient réels, des déséquilibres sociaux. Pourquoi ce parallèle ? Est-ce que vous pouvez l'expliciter ?
Alors ça, c'est très important. Et ça rejoint ce qui est très fort dans l'encyclique du pape, Laudato Si, c'est « tout est lié ». Voilà. Et donc, Jésus vit dans une société. Il faut lire le livre de Pagola, qui est très un exégète, qui a vraiment approfondi tout ce qui a été écrit au point de vue exégèse jusqu'à maintenant, et qui nous permet de rentrer dans la réalité de la société palestinienne de l'époque et comment Jésus s'est positionné dans cette société. C'est une société qui était très tendue au niveau social, où les gens étaient au bord de la rupture avec des taxes et des impôts qui étaient très lourds, et donc qui craignaient de tomber dans l'endettement et ensuite de perdre leurs terres et de se retrouver sur les rues. On voit bien dans les évangiles combien il y a des mendiants, des gens qui ont tout perdu. Et Jésus est dans cette société-là et va rejoindre justement ceux qui ont tout perdu. Il est un peu fou de faire ça, hein, mais il va rejoindre et va questionner les gens qui sont au pouvoir dans cette société très fortement. On le voit bien dans les évangiles, ce qui a abouti au rejet et finalement à sa mort. Et va essayer de promouvoir justement une autre société, une autre manière de concevoir la société des hommes, qui est le royaume de Dieu dont on vient de parler.
Le parallèle avec la conversion écologique.
Et donc le parallèle, c'est que la cause de cette tension sociale, la cause de la misère, eh ben c'est les mêmes causes que la cause de la destruction de l'environnement aujourd'hui. C'est le cœur de l'homme qui est égoïste, qui essaie de prendre tout pour lui et qui va du coup opprimer les autres et qui va opprimer la nature, qui va exploiter la nature jusqu'au trognon.
Voilà. À la différence près que là, les millions d'Indiens qui vivent dans des bidonvilles ou autres pays, pour le coup, l'injustice sociale cette fois est marquée. Vous disiez que c'était en tension à l'époque de Jésus. Ouais. Aujourd'hui, le milliard de personnes qui vivent dans les bidonvilles, souvent, c'est des gens qui ont été obligés de fuir leur terre. C'est d'anciens paysans.
Voilà. Donc, tout à fait. Donc, la question écologique crée la misère des hommes aussi. Et c'est ça qui est... Donc, c'est la même cause. Et Jésus attaque ces causes-là. Et donc, en ce sens-là, être à l'écoute de ce que nous dit le Christ et à la suite du Christ pour une nouvelle société, et de nouvelles relations entre les hommes, c'est au fondement aussi de la question écologique.
Alors la suite de ce chapitre, vous parlez du royaume, de la sobriété heureuse et puis de l'action pour un changement de société. On est un peu au cœur en fait de l'ouvrage et on imagine des retraites qui sont proposées autour de ce livre. Faut-il en l'occurrence forcément mettre Jésus devant pour franchir le gué de cette conversion, Jérôme Gué?
Il y a plein de personnes qui entrent dans cette conversion et qui ne sont pas chrétiens ou qui ne le font pas à la suite du Christ. Maintenant, si on est chrétien, la figure du Christ, je pense, est vraiment appelante et peut nous entraîner très fortement à entrer dans cette conversion écologique. Moi, j'aime beaucoup le pape dans son dernier chapitre de l'encyclique Laudato Si, au 217, quand il dit, parlant des chrétiens, « Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Voilà. » Je crois vraiment que nous, en tant que chrétiens, étant à la suite du Christ, si nous nous laissons vraiment interpeller par l'appel du Christ à la conversion intérieure, à la conversion de nos relations avec les autres hommes, eh bien, il y a un appel à entrer dans cette conversion aussi avec les éléments de la nature pour plus de justice et pour un vrai royaume.
Alors, à ce moment-là, vous parlez, on a l'impression que vous parlez d'une certaine manière de la providence. Puisque vous faites un parallèle avec Jésus en expliquant qu'en fait, et c'est quelque chose qu'on connaît peu, que Jésus était lui-même en rupture en fait avec son époque, qu'à son époque en fait quitter son travail, sa famille, c'était prendre un risque considérable. Expliquez-nous.
Oui, ben il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de RSA à l'époque. Hein. Donc si vous perdez votre travail, eh bien vous êtes à la merci de.
Un mendiant.
Vous devenez mendiant. Donc
Jésus était un mendiant en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire quelque part.
Bah c'est ce qu'on peut lire, je pense, quand on regarde les Écritures et les Évangiles. C'est-à-dire il va sur les routes et il dit n'emportez pas de bourse, de bâton. On peut supposer que c'est ce qu'il fait, quoi. Et donc, il est entré, oui, dans cette posture-là.
Alors, vous faites ce parallèle, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la conversion, il y a forcément un saut dans l'inconnu, une forme de lâcher prise, comme on dit aujourd'hui.
Bah, quand on voit ces jeunes, ceux que vous avez cités au début, qui quittent leur situation, bien établie et tout ça, il y a un saut dans l'inconnu. Et dans l'évangile, on voit bien aussi des gens qui font ce saut. Vous prenez, on voit Zachée, enfin, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est assez incroyable. C'est quelqu'un qui, quand même, par rapport à son environnement et sa famille très établie, fait un saut et donne la moitié de ses biens aux pauvres, qui aujourd'hui est le faire.
Alors vous faites des parallèles en expliquant que de fait il y a du monde en fait qui fait ce saut et puis le parallèle est beau, le règne de Dieu est parmi vous, vous reprenez une parole de l'écriture, même s'il ne vient pas comme un fait observable, donc Luc chapitre 17 verset 20 à 21 et le parallèle que vous faites c'est le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent si je me trompe pas, qui est donc ce beau documentaire avec des initiatives aux quatre coins de la planète de gens qui avancent et pas forcément des chrétiens. Après vous parlez de la sobriété heureuse, on va finir avec ça. C'est une expression donc, qui est utilisée par le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Donc on commence à être familier de cette expression qui vient elle-même de Pierre Rabhi, grande figure et grand pionnier, prophète d'une certaine manière de la cause écologique. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager là-dessus, sur cette sobriété heureuse ?
On a souvent associé la démarche de pauvreté qui est très présente dans la tradition chrétienne de pauvreté volontaire, hein, je parle bien sûr pas de la misère, hein, c'est-à-dire d'une certaine sobriété on l'associe souvent à quelque chose d'un petit peu ringard et pas très attirant, et on peut le concevoir. Hein.
Ou réservé à certains, peut-être.
Voilà. Mais dans une société qui est complètement à l'inverse et qui nous pousse à une consommation débridée, c'est sûr que c'est pas. Alors que quand on regarde l'Évangile, quel est celui qui est triste dans l'affaire ? C'est celui qui a de grands biens et qui finalement retourne à ses grands biens. Et quels sont ceux qui ont l'air plutôt heureux ? Ce sont les disciples qui ont aussi, à un moment donné, quitté leur boulot. Ils étaient pêcheurs, ils se sont mis à aller sur les routes avec le Christ, et qui finalement ont l'air d'être plutôt heureux. Voilà. Donc, je pense que fondamentalement, l'Évangile nous dit cette chose-là. Et il n'y a qu'à écouter aussi les Béatitudes, qu'il y a quelque chose d'heureux dans la sobriété, dans l'attention à une simplicité de vie et avec les choses.
Voilà, il y a une expression d'Alain Dat aussi, moins et plus. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, une capacité de jouir avec peu. Et un petit peu plus loin, le paragraphe 223, on peut en citer un passage avant de faire une première pause. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs, dit le pape François, et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de ce parcours spirituel pour une conversion écologique paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité.
Thank you.
l'Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato aussi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On fait notre part à cette antenne par de multiples manières, entre autres dans le cadre de l'émission Vivante Église, pour essayer d'honorer cette grande année Laudato aussi qui court jusqu'à Jérôme Gay. C'est quoi? C'est... Je vous pose une colle, moi aussi.
Oui, c'est tout au long de cette année. Ouais.
Tout au long de cette année, où on est invité pas seulement à relire l'encyclique ou à la lire, mais à essayer de la vivre. Et pour ça, donc, on se fait aider par cet ouvrage que l'on parcourt ensemble et qui s'appelle justement « Parcours spirituel pour une conversion écologique ». Alors, j'ai Bénédicte à chaque fois. Charge à vous donc de nous aider à essayer d'intérioriser le thème du jour. Alors vous me direz, c'est déjà pas facile parce que vous devez nous faire une espèce de mini-retraite à l'antenne. Alors en plus, par téléphone, le défi augmente encore. Peut-être pour commencer, pour faire écho à ce qu'on a dit dans la première partie, est-ce qu'il y a une chose qui vous a frappé, sur laquelle vous voudriez revenir?
Ah bah oui, on peut tout à fait avancer du côté de la découverte, par exemple, du personnage de Zachée pour faire suite à tout ce qu'a dit Jérôme. Parce que c'est un des personnages phares de l'évangile qui a vraiment fait une conversion du point de vue des biens matériels, parce qu'après vous aurez par exemple Marie-Madeleine qui aura fait une vraie conversion aussi de l'intérieur dans ses relations et qui va du coup changer complètement de manière de vivre en suivant le Christ.
Alors avant qu'on parle de Zachée, vous voulez peut-être revenir sur un passage qu'on n'a pas forcément cité dans ce chapitre, qui est, je crois, de Saint Ignace de Loyola. Ce n'est pas d'en avoir beaucoup qui permet de goûter les choses, c'est ça? Je ne trouve pas exactement la citation, quelle est-elle?
Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. Et je trouve très intéressante cette petite annotation des exercices spirituels dans l'étape où on est là. Pourquoi? Parce que, en fait, pour opérer une conversion écologique, il faut déjà avoir entendu en soi le désir. Et donc, écouter son cœur profond. Et Jérôme disait bien, en fait, il n'y a pas forcément les chrétiens seulement qui écoutent leur cœur profond, et heureusement pour nous. Mais du coup, a fortiori, au nom de Jésus, et en le contemplant dans l'évangile, en contemplant les changements de vie dans des personnes qu'il a rencontrées, nous pouvons nous aussi nous laisser interpeller. Et donc, qu'est-ce que nous faisons de ce cœur profond qui nous habite et qui récurremment nous dit « Écoute, ce serait bien de changer de vie ». Voilà, c'est ça que je veux pointer, c'est que c'est pas de glaner des tas et des tas et des tas de savoir sur l'écologie, mais c'est de sentir et goûter intérieurement que quelque chose me pousse en avant pour changer. Alors, ça, c'est une motion qui vient de Dieu, peut-être. Et que si je la mets en œuvre, ça va peut-être me rendre justement heureux du côté de la sobriété heureuse dont nous parlions il y a quelques instants.
On verra ça avec Benoît Contant, hein, parce que vous, c'est un petit peu ce qui vous est arrivé. Et puis c'est aussi ce qu'on peut lire dans le témoignage d'Arthur, donc, qui est Blandine de la Susse, qu'on citait au début de l'émission, qui ont écrit ce livre, et lentement tout bascule. Hein. Ils sont partis sur les chemins de Saint-Jacques. Lui dit qu'il n'avait pas forcément envie d'aller marcher. Il a suivi sa femme parce qu'il sentait qu'elle vivait une forme de communion en fait avec la nature qui le surprenait. Et puis de fil en aiguille, c'est revenu de manière insistante. Et c'est un chemin, hein. Ça se fait en général pas comme un grand flash, on va dire à la Saint-Paul. Hein. À chaque fois,
ça demande de prendre du recul et de sentir qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui récurremment est comme une petite lumière ou comme une question ou quelque chose d'un peu lancinant qui ne me laisse pas tranquille. Un peu comme des questions vocationnelles, hein, où à un moment il faut y répondre parce qu'il y a une urgence à y répondre. Sinon, je ne serais pas heureux dans ma vie.
Alors justement, Bénédicte, avant qu'on aille plus loin, on peut parcourir, en fait, lire l'encyclique Laudato Si, écouter ses émissions, bref, et de multiples autres, hein, en se disant que c'est la parole du pape. Est-ce qu'on peut se dire qu'en fait, à travers cette parole du pape, c'est dans le fond Dieu lui-même qui adresse au monde et à chacun d'entre nous vraiment en fait un appel fort?
Ah oui, je pense qu'on peut le recevoir tout à fait comme ça. C'est un homme parmi d'autres, le pape, mais il se trouve qu'il est consacré par Dieu et que on peut l'entendre comme la parole relais du Christ et relais de l'Évangile pour nous. Bien sûr que ça fait écho, surtout quand cette parole est tant attendue. Souvenez-vous, dans l'ambiance dans laquelle est paru Laudato Si, tout le monde attendait ce texte. C'est impressionnant. Après, il y a eu le sommet de la conscience. Toutes les religions étaient mobilisées et Nicolas Hulot qui disait il faut un sursaut d'âme, il faut que les religions s'y mettent. Donc voilà, c'était une période pour moi, en tout cas, qui était à Paris à ce moment-là, auprès des jeunes de la DCC, une période extrêmement enthousiasmante pour dire le monde peut changer et le monde va changer si je m'y mets moi.
Alors, vous voulez faire un parallèle avec un personnage de l'Évangile, on en a déjà parlé, donc Zachée, pour nous aider nous-mêmes à faire ce chemin, comme vous le faites à chaque fois, et comme il est proposé dans cet ouvrage, et qui est donc de partir de passage de l'Écriture. Alors, expliquez-nous comment nous prendre pour un Zachée. En l'occurrence, on peut peut-être recommencer par situer cet homme qui était donc un collecteur d'impôts.
Un chef de publicain, un homme riche, donc établi dans un certain système, avec ses registres de valeurs, son milieu, sa condition sociale, est peut-être emprisonné là-dedans, puis d'un seul coup, il entend parler de Jésus, il y a un mouvement qui de foule qui se joue dans Jéricho, et puis il ne peut pas résister à essayer de voir qui est cet homme qui fait parler de lui, qui est cet homme qui fait jaillir de l'inattendu, peut-être que c'est pour lui, peut-être qu'il... Il cherche quelque chose, il a un désir de fond. Et il prend en compte, il n'a pas peur du ridicule, il va monter sur un sycomore parce qu'il est petit. Alors c'est intéressant aussi cette affaire-là de haut et de bas, de regard d'en haut et de regard d'en bas. On peut s'interroger sur la manière dont nous regardons les autres. Et là, il a été complètement bouleversé par un regard qui venait d'en bas, vers lui, qui était en haut. Et donc, peut-être qu'il s'est croyé en haut, lui, mais en fait, c'est un regard d'en bas. C'est celui de Jésus, puis pas n'importe quel regard. Donc, comment je regarde les autres, ça peut être intéressant aussi. Et puis, du coup, cette rencontre a quand même un seul regard, une seule parole. Il y a très peu de choses, en fait. Hein.
Alors, juste...
Zachée, descends vite, il me faut demeurer chez toi. C'est tout ce qu'il y a de la part de Jésus.
Bénédicte Lamoureux, d'avoir quelqu'un qui nous ouvre un peu le chemin, enfin je reformule ma question, on dit souvent à propos de la crise écologique, certains s'en désolent, hein, en l'occurrence Cyril Dion par exemple, qui considère que ça va pas assez vite, donc producteur de ce documentaire Demain, qui a aussi cofondé donc Les Colibris, qui dit que ça va pas assez vite parce qu'en fait il suffit pas de faire peur, je crois qu'on l'avait déjà dit à cette antenne, ou d'avoir les chiffres devant les yeux, il faut viser quelque chose, avoir un rêve, une ambition, arriver à se projeter, et puis parfois rencontrer quelqu'un ou un regard. Alors en quoi le regard de Jésus peut aider à faire cette révolution écologique ?
Parce que dans ce regard, on peut percevoir la vérité de ce qu'on est, je pense. Et donc Zachée, qui était sans doute en attente quelque part en lui, sans le nommer vraiment, sinon, mais certainement en attente, puisque... Il part vers Jésus, il va le rencontrer, il va essayer de le voir. Donc il est en attente de quelque chose et Jésus révèle cette attente, révèle qui il est, Zachée, c'est-à-dire un homme riche qui peut-être s'est encombré de cette richesse, dont il ne sait plus quoi faire, et qui du coup va le dépouiller de ça parce que dans ce regard, il va découvrir qu'il est aimé, qu'il n'a pas besoin de richesse pour être aimé, et que sa valeur première, elle est d'être simplement, d'exister en tant que Zachée. Il n'a pas besoin de Nike, de veste en cuir, de voilà. Il a pas besoin de tout ça, il a pas besoin d'en avoir plein les poches et plein la maison et de yacht et d'appartements, etc. pour exister. Vous voyez, il a besoin simplement d'être reconnu par quelqu'un et de se laisser aimer et toucher par Jésus qui va le bouleverser.
C'est
ce qui se passe.
Jérôme Gué.
Oui, de cette manière, le regard de Jésus, c'est que toute personne a sa place dans le cœur de Dieu et a sa place dans la société. C'est ça, ce regard dans lequel il nous entraîne. Et donc, dans notre société, toute personne a sa place. Et c'est ça vers quoi il nous entraîne.
Quel est le rapport avec la conversion écologique, là?
Eh bien, qu'on ait un rapport à la nature qui permette à chaque humain d'avoir sa place aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, on est en train de détruire cette possibilité-là. Donc, il nous entraîne dans ce souci-là que toute personne, tout humain ait vraiment sa place.
Voilà, puisqu'il faut-il le rappeler, encore, hein, évidemment, Laudato si, ça n'est pas que le cri de la terre, c'est aussi le cri des pauvres. Hein. Vous vouliez choisir un autre passage, c'est l'évangile selon Saint Luc, chapitre 12, versets 22 à 32. Évidemment, on ne va pas forcément le lire. C'est celui qui parle d'une certaine manière de la providence.
S'abandonner
à la providence. Ouais. Voyez les corbeaux, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'ont ni grenier ni magasin, et Dieu les nourrit, vous valez tellement plus que les oiseaux. Et autre passage, pourquoi vouliez-vous arrêter là-dessus ?
Bah, parce que ça me semble important de faire une petite révision de notre rapport à nos biens et à la nature et à la crainte aussi. Parce que, en fait, c'est amasser parfois, c'est ça notre manière de faire, de nous laisser séduire par la consommation, etc. Et donc, de lâcher toutes ces craintes du lendemain, de vivre au jour le jour, de rentrer dans, de retrouver, comme on l'a vu dans les premiers chapitres, la perception de la nature, de déposer dans cette nature les craintes et de faire confiance à l'avenir, de faire confiance. Cette nature, elle nous porte aussi. Et d'entrer dans un abandon à la vie de Dieu. Voilà. Et donc souvent nos tourments viennent aussi de nos peurs du lendemain, de nos peurs de pas avoir assez, de voilà. Et ce que nous avons à faire, c'est simplement recevoir cet amour de Dieu, comme dans ce regard de Zachée, ce don de Dieu, ce don du royaume aussi.
Mais Bénédicte Lamoureux, on imagine souvent la spiritualité jésuite, c'est souvent la fine ligne de crête de la vie de l'esprit. Quand Jésus parle justement du lys dans ce passage, voyez les lys, ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe dans les champs, elle qui est là aujourd'hui, qui demain sera jetée au feu, il fera tellement plus pour vous. On se dit, bon, tout le monde n'est pas appelé à vivre comme saint François d'Assise quand même, ou comme un mendiant comme Jésus. Alors, je sais que la remarque peut paraître caricaturale, mais même, enfin voilà, l'aventure peut faire peur aussi.
Bien sûr, l'aventure peut faire peur, mais peut-être c'est toute une manière, une attitude d'envisager la vie, et au lieu de se tenir dans la crainte et dans la peur et dans la prévision de tout, mais d'entrer dans une démaîtrise, dans une décélération, dans un lâcher-prise pour pouvoir se laisser toucher, se laisser aimer, se laisser prendre soin. Dieu prend soin de sa création, me laisser prendre soin des autres et prendre soin de moi et me laisser aimer et toucher aussi. Enfin, vous voyez, c'est entrer c'est un renversement, parce qu'on nous a beaucoup habitués à tout maîtriser et tout calibrer, tout mettre dans des agendas, tout contrôler. Donc c'est plutôt faire cet espace de l'inconnu, cet espace qui nous permet que l'esprit agisse en fait.
Bénédicte Lamoureux, pour finir, on avait prévu que vous reveniez sur une méditation qui est proposée dans cet ouvrage, Méditation des trois hommes de Saint Ignace de Loyola. Alors expliquez-nous et puis rendez-nous ça peut-être le plus accessible possible.
Oui, alors c'est une méditation qui vient bien dans ce chapitre appelé à la conversion pour la sauvegarde de la création. Pourquoi ? Parce que on voit bien entre Zachée et le texte qu'on vient de travailler un peu, là, de développer, que nous avons des attachements. Nous avons des attachements et c'est heureux et c'est normal. Et donc ces attachements peuvent être très divers. On tient à un super job avec un titre. On tient à avoir un appart correct. Il ne s'agit pas de vivre dans la misère. Hein. Il s'agit d'avoir un minimum et de vivre décemment.
Alors, les trois hommes, là, expliquez-nous l'histoire des trois hommes.
Alors, mais j'y viens parce que c'est important de considérer l'attachement au départ. Parce qu'il va falloir apprendre à se détacher d'un certain nombre de choses. Cette histoire des trois hommes, ça peut être une histoire d'aujourd'hui. Ignace, il met en scène un homme qui a, enfin trois hommes plutôt, qui ont gagné des ducats, dit-il. Bon, c'est le 15e siècle, hein. 16e siècle. Et donc 10 000 ducats acquis, pas très purement d'ailleurs, dit-il, et en tout cas pas purement comme il se doit pour l'amour de Dieu. Donc, et il dit, ils veulent tous se sauver et sauver leur âme, hein. Ils veulent vivre selon Dieu. Sauf que ces 10 000 ducats sont finalement un fardeau et un obstacle pour arriver à être vraiment avec Dieu. Et donc, il fait composer le lieu, comme souvent, il utilise l'imagination. Donc, et puis, du coup, il nous fait voir ces trois hommes, mais du coup, il me fait voir aussi moi-même, moi, devant Dieu et avec mes propres attachements. C'est pour ça que je développais un peu ces types d'attachements qui peuvent être les miens, c'est-à-dire des attachements de type idéologique parfois, des attachements à une personne qui peut être un peu nocif pour moi, ou des attachements évidemment matériels sur du matériel, je sais pas moi, des, des vêtements de marque ou un yacht ou un appartement ou un super job, comme je disais tout à l'heure.
Réagissent ces trois hommes, Bénédicte?
Alors, les trois hommes, ils veulent vraiment être avec Dieu, mais ils sont encombrés de ce bien. Et donc, ce qu'il faut d'abord dans un premier temps, et Ignace le pose, il dit, il faut d'abord regarder l'intention droite, c'est-à-dire être en vérité avec soi-même dans la connaissance que j'ai de l'attachement que j'ai à cet objet. C'est important que je vois qu'il m'encombre. Parce que si je le vois pas, je pourrais pas demander la grâce d'être désencombré pour pouvoir mieux trouver Dieu. Donc déjà, se poser en vérité de soi à soi, de reconnaître qu'il y a des attachements qui m'encombrent. Et donc après, il décline trois manières de se positionner, donc les trois hommes. Le premier, il veut bien se détacher de son attachement à cet argent. Mais en fait, il va jamais en prendre les moyens. Donc, il ne se détermine jamais. Il y a un manque complètement de volonté. Et jusqu'à l'heure de sa mort, il ne prend pas les moyens de se détacher vraiment de cette somme d'argent.
Le deuxième,
il veut écarter l'inclinaison, oui, l'attachement. Sauf qu'il voudrait en même temps la garder. Donc, il voudrait être à Dieu, mais il voudrait en même temps garder les 10 000 ducats, enfin, c'est pareil. Et donc, en fait, en gros, il veut manipuler Dieu. C'est-à-dire, il va alors, du coup, peut-être à coup de chapelet ou à coup de je ne sais quoi. J'ai rien contre le chapelet, hein, mais il va essayer d'obtenir de Dieu que son chemin passe par le fait qu'il garde les 10 000 ducats. Vous voyez, donc il n'est pas dans l'indifférence non plus. En fait, il ne veut pas vraiment les lâcher.
Et le troisième, pour finir?
Le troisième, lui, il est vraiment dans cette indifférence. Donc, il l'a lâché. Et il se situe un peu, je ne sais pas si vous voyez les balances sur un marché. C'est assez intéressant de voir l'aiguille de la balance et les deux plateaux. Et bien, lui, il est vraiment sur l'aiguille de la balance. C'est-à-dire que il laisse faire le Seigneur. C'est-à-dire il sait qu'il a lâché l'attachement, si vous voulez. Donc, les 10 000 ducats, il les gardera ou ne les gardera pas. L'essentiel pour lui, c'est d'être avec Dieu. Et c'est de sentir ce que Dieu désire pour lui. Et donc, peut-être, il va les garder, peut-être, il ne va pas les garder. Mais pour lui, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est d'être avec Dieu.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va retrouver Benoît Contant. On va voir s'il a lâché 10 000 euros pour aller au village de François. Je rappelle le titre de l'ouvrage que l'on parcourt à l'occasion de cette série d'émissions. Parcours spirituel pour une conversion écologique, l'appel de Laudato Si, par nos éditions Vie chrétienne et Fidélité.
Présence à foi 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato Si, sixième émission de cette grande série annuelle. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Jérôme Gay, qui est religieux jésuite et donc co-auteur d'un ouvrage que l'on parcourt sur ce thème de l'appel de Laudato Si, Bénédicte l'amoureuse religieuse Xavier, directrice du centre spirituel jésuite Cotopaïs, et Benoît Contant, donc, qui est impliqué avec son épouse et leurs enfants dans le village de François. Allez, juste le village de François en deux mots avant qu'on parle de votre histoire, puisque c'est quand même comme ça qu'on vous présente. C'est donc une abbaye au sud-ouest de Toulouse.
Tout à fait.
Voilà, où il y avait des religieux cisterciens, une trappe comme on dit.
Exactement.
Et aujourd'hui, où il va se développer
un village de François. Donc le village de François, c'est une association qui propose des lieux de vie partagés entre des personnes fragiles et des personnes accompagnateurs. Et elle propose un lieu de vie donc autour de trois axes. Un axe de vivre ensemble, un axe de l'insertion par l'activité économique et un axe Laudato aussi. Voilà, donc on se retrouve, on accueille des associations qui elles-mêmes encadrent sous forme de colocation des personnes fragiles, donc anciennes personnes issues de la prostitution, anciennes personnes en situation de rue, etc.
Voilà, une seconde vie pour les abbayes, comme on dit, on peut lire aujourd'hui dans la presse, où vont être présents donc des familles qui vont vivre sur place avec des personnes dites en situation de fragilité, mais on va y revenir. Alors vous, si on commence par votre histoire, vous aussi, comme les Lassus, au début de l'émission, on parlait de ce couple, donc auteur de cet ouvrage-là, et lentement tout bascule. Donc vous étiez marié, vous aviez déjà trois enfants avec votre épouse Anne-Sophie, et puis vous aussi vous êtes mis en chemin. C'était en 2015.
Tout à fait, on s'est mis en chemin en 2015. Alors c'est vrai que ça évoque le chemin de Compostelle, le chemin de la conversion, c'est vraiment une démarche. Et donc on s'est mis en chemin en 2015, on est parti deux ans avec nos trois aînés, voyager en camping-car en Amérique du Sud, sur le continent tous les pays d'Amérique latine.
Et pourquoi vous avez fait ça?
Alors, on a fait ça parce qu'un désir de changer de vie, désir de trouver un petit peu ce qui nous faisait lever le matin, comme on dit, ou ce qui donnait du sens à cette course un peu effrénée dans laquelle on voit plus forcément très clair sur ce qui nous, sur pourquoi on est là et après quoi on court surtout et après quoi on veut aller.
Alors, vous aviez dans vos bagages donc l'encyclique Laudato Si, et vous l'avez lu à l'occasion donc de ce voyage.
On l'a lu pendant le voyage.
Avec des parallèles, si je me souviens bien, c'est-à-dire qu'en même temps que vous le lisiez, il y avait des choses que vous avez vues, entre guillemets, et qui ont donné de la chair à la parole du pape François. Vous pouvez peut-être revenir là-dessus?
Oui, alors c'est vrai qu'on avait fait le choix de partir. On a cherché longtemps avant de partir un fil rouge pour faire notre voyage, et on trouvait pas ce but qu'on cherchait, et en fait je crois qu'on l'avait on l'avait tout simplement emmené, mais on l'avait pas encore ouvert, le fil rouge. Et donc on a pris le parti de prendre du temps de faire des rencontres et de rencontrer les personnes qui étaient présentes dans les pays qu'on croisait, et donc on a eu pas mal de petites rencontres et de petits clins d'œil avec des expériences, notamment le manque d'eau qui ont été vécues cruellement, puisqu'on a traversé le désert d'Atacama et on a eu soif.
J'ai souvenir, comme ça, vous m'avez raconté que vous aviez touché du doigt la sobriété heureuse aussi. Vous avez vu beaucoup de gens qui vivaient avec peu, mais qui étaient heureux.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le propre de tous les voyageurs, c'est qu'on vit, on est accueilli par des gens qui sont pauvres et qui ont pas grand chose et qui nous accueillent les bras ouverts en nous donnant tout ce qu'ils ont. Et on a vécu aussi pendant deux ans, donc avec peu de choses, puisque avec des contraintes géométriques, on va dire, parce que le camping-car n'est pas extensible. Donc on a des petits placards, des petits espaces, et donc on peut pas accumuler de choses. Donc on se détache de tout ce qui nous, de tous nos biens matériels, progressivement, successivement. Et puis quand on acquiert quelque chose, on est obligé de se détacher d'autres choses. Donc c'est vrai qu'on a vécu en ce sens-là la sobriété heureuse.
Alors vous êtes humble, enfin vous êtes, on va dire, vous ne vous la racontez pas, vous m'avez dit une ou deux fois, je ne suis pas sûr d'être le témoin idéal. Comment vous parleriez de votre conversion écologique avec votre épouse? Ça veut dire quoi, une conversion écologique pour vous? Comment ça résonne?
Alors pour nous, la conversion écologique, c'était avant tout, c'est ce chemin là qu'on est en train de faire. On pense pas du tout être arrivé au bout, donc qui démarre avec ce voyage. On est rentré de ce voyage avec une volonté profonde de vivre un peu autre chose, autrement, et avec une volonté d'être avec la, de vivre avec, dans la relation, avec la relation humaine, avec l'accueil des pauvres, avec avec l'accueil des personnes plus fragiles. En tout cas, on était très intéressé par le côté écologique, mais pas que. On sentait qu'il y avait quelque chose en nous autour de aussi de la personne fragile. Et donc on a pris le, quand on est arrivé en France, on avait tout de suite voulu vivre un peu différemment. Donc on a accueilli un jeune homme collégien quand on est arrivé à Montauban. Et puis au bout d'un
jeune collégien qui était un peu en difficulté.
Qui était en difficulté, oui, qui avait des problèmes de papier. Enfin, ses parents avaient des problèmes de papier, donc voilà, qui avait besoin d'une transition.
Après, vous avez vécu avec une personne âgée.
Tout à fait. Bénédicte la connaît bien puisqu'on s'est croisé à ce moment-là oui. chez elle. Et donc on a vécu pendant 2 ans en colocation avec une personne âgée et cette personne-là. Donc c'était vraiment l'idée de vivre autrement, une maison ouverte où on fait attention les uns aux autres et finalement on essaye de consommer de façon un peu plus intelligente tout en étant voilà, c'est notre petit pas et notre petite chose et notre petite pierre à l'édifice. On est des colibris aussi, quoi.
Alors, le Village de François, c'est donc une association donc, qui s'est créée il y a quoi, un an ou deux, hein ?
2 ans, oui.
2 ans, donc qui travaille à développer des lieux de vie, souvent dans des anciens monastères, et qui veut faire ça dans le plus d'endroits possible en France. En tout cas, il y a un premier village qui s'est ouvert donc ici dans la région toulousaine. Si on se balade sur votre site internet, à défaut d'être allé vous voir encore en chair et en os, entre autres pour des raisons de confinement et déconfinement, on voit vivre ensemble, avoir une activité économique, et donc redonner du sens, donc renouer le lien social, redonner du sens, et prendre soin de la maison commune. Comment vous nous présenteriez un peu ces 3 piliers, puis surtout comment ça s'incarne, si vous deviez un peu nous balader sur le site, à quoi ça ressemble?
Alors ça c'est, pour nous ça a été l'étape d'après, c'est-à-dire que suite à cette vie en colocation, on s'est dit il faut qu'on aille un peu plus loin, on a envie d'un peu plus. On a discuté avec en famille avec mon beau-frère et ma belle-sœur de choses un petit peu similaires, et on s'est dit il faut qu'on passe à autre chose. On a rencontré le Village de François avec ses 3 piliers donc que vous avez dit, activité, insertion par l'activité économique, vivre ensemble et Laudate aussi. Donc
ça ressemble à quoi, si on s'arrête juste sur vivre ensemble, enfin à terme le Village de François ça ressemblera à quoi, parce que aller dans un monastère parfois ça nous est arrivé.
Vivre ensemble, ça veut dire que c'est donc une dizaine de familles, une colocation, des colocations ensuite.
Donc les familles vivent quoi, dans des espèces de maisons séparées ou des appartements séparés?
Alors on a des lieux de vie séparés et autonomes. Ensuite on vit avec des. Alors pour l'instant c'est le début du projet, donc les colocations sont pas encore accueillies.
À terme, à quoi
terme, ça à terme, donc il y aura une centaine de personnes qui vont habiter sur le village, enfin sur l'abbaye, avec des personnes qui sortent qui sortent de la rue, des personnes qui sortent de la prostitution, des personnes qui peuvent être en situation de handicap, en situation de dépendance, du béguinage pour des personnes âgées
donc voilà. Chacun vivra dans son lieu, c'est ça,
chaque
avec une association,
exactement,
un référent d'association, et puis autour de ça il y a des familles qui vivent in situ, c'est ça,
voilà, qui vivent in situ et qui sont un petit peu la cheville ouvrière du vivre ensemble et de pour proposer des choses les uns avec les autres. Les familles n'ont en aucun cas un rôle d'accompagnant, elles ont un rôle juste
d'amitié.
De villageois et puis d'amitié avec les personnes.
Alors ça c'est le premier, vivre ensemble. Le deuxième, redonner du sens, activité économique, c'est-à-dire que sur place il y a des gens qui vont travailler ou qui vont se réinsérer par le travail.
C'est ça, on pense que l'activité économique permet de redonner la dignité à l'homme et donc de lui redonner un sens aussi dans ce qu'il fait. Donc on développe des activités économiques, on a déjà un atelier de poules pondeuses avec 500 poules pondeuses en agriculture biologique, on est en train de monter un atelier de chantier d'insertion autour de la permaculture qui devrait ouvrir au mois de septembre. L'idée, c'est à travers des travaux manuels et qui ne peuvent pas être mécanisés, de pouvoir proposer de l'activité par le travail, en fait, pour permettre d'acquérir de la dignité.
Voilà, il y a aussi l'accueil dans le monastère de gens qui voudraient venir avec des temps de formation, vous pouvez peut-être en dire
tout
un mot.
Tout à fait, on a maintenu l'hôtellerie puisque il y avait une hôtellerie que les moines avaient développée, donc l'activité d'hôtellerie est maintenue avec la volonté de proposer des séminaires et des formations autour notamment de tout ce qui peut être écologie intégrale, Laudate aussi, etc.
prendre soin de la maison commune, le troisième pilier, donc écologie intégrale, ça ressemble à quoi chez vous du coup?
C'est... L'écologie intégrale, finalement, c'est prendre bien, c'est bien prendre soin des personnes et de la maison commune que l'on a. Donc un cadre de vie beau. Si pour ceux qui ont été à l'abbaye Saint-Pain et du Désert, c'est un beau cadre de vie.
Prendre soin c'est le moins qu'on puisse dire, oui, vous êtes plutôt gâté.
Voilà. Prendre soin des personnes avec qui on vit et les considérer dignement et les faire avancer et leur permettre de progresser.
J'avais une dernière question, Benoît Contant. Je fais des parallèles avec les Lassus là qu'on a cité au début, hein, donc toujours ce couple qui a vécu sa transition. Dans un article qu'on pouvait trouver sur Aletheia, il disait la chose suivante, et en l'occurrence il citait Steve Jobs qui disait la chose suivante: si un matin en me regardant dans la glace comme je le fais chaque jour, j'apprends que c'est le dernier jour de ma vie, est-ce que je le vivrais de la même manière que j'ai prévu de le vivre aujourd'hui? Et il ajoutait la chose suivante: si je me pose cette question plusieurs jours de suite et que la réponse est toujours non, cela veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Et puis il dit un peu plus tard que lui, quand il se pose la question aujourd'hui, c'est un grand oui qui le rend heureux. Est-ce que vous, c'est parti un peu d'une question comme ça, et aujourd'hui vous diriez un grand oui à ce que vous vivez?
Oui, c'est très bien dit, mais c'est exactement ça. C'est un grand oui à ce qu'on vit aujourd'hui et qui nous fait nous lever le matin, exactement. C'est ça.
Jérôme Gué, peut-être le mot de la fin. Ça paraît simple comme ça, hein, parce que nous, ça dure 15 minutes, mais derrière, c'est un long chemin, hein, pour cette famille. Ça a commencé en 2015, les Lassus, pareil.
Ben moi, je dirais, faut pas avoir peur d'être audacieux. C'est-à-dire, là, on a un projet, le village de François, qui est extrêmement audacieux. C'est énorme, mais c'est super. Et voilà des témoignages de qu'on a évoqué ce matin avec Benoît, tout ça, de personnes qui ont l'audace, d'un moment donné, de faire une rupture. Alors, ça peut être une micro rupture, ça peut être juste une petite chose, et ça peut être des grandes choses. Et puis, c'est parfois par des petites choses qu'on arrive à des grandes choses. Mais on est vraiment appelé à l'audace. Le pape parle de ferme résolution, et le Christ nous appelle à cette audace d'être à sa suite, hein, vraiment.
Eh ben merci de faire retentir l'appel de Laudato aussi pour cette sixième émission. Je rappelle le titre de l'ouvrage que l'on parcourt, Parcours spirituel pour une conversion écologique, par les éditions Vie chrétienne et Fidélité. Rendez-vous est donné le mois prochain. Un grand merci à vous.
Merci.
À la technique, Jonathan Botello. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.